Vous écoutez RTL.
RTL Matin, Yves Calvi.
7h44 sur RTL, Elisabeth Martichoux, vous recevez ce matin Jean Bassère, directeur général de Pôle emploi.
Bonjour Jean Bassère.
Bonjour.
Vous prenez rarement la parole, donc merci d'être dans ce studio d'RTL ce matin. On rappelle d'abord que Pôle emploi n'a pas un rôle politique dans la lutte contre le chômage. C'est une grande agence qui met en lien les millions de chercheurs d'emploi avec les millions d'entreprises et d'entrepreneurs. Ceci posé, vous êtes bien placé évidemment pour scruter le marché. Après 3 mois de baisse consécutive du chômage, on n'avait pas vu ça depuis longtemps, on attend le résultat de décembre, mardi prochain, la courbe va-t-elle continuer de s'inverser? Est-ce qu'il y a des bonnes raisons d'espérer?
J'espère, oui. Lorsqu'on examine les différents indicateurs avancés de conjoncture, on est plutôt aujourd'hui dans une bonne trajectoire, notamment en termes de création d'emplois, reprise de l'intérim. Cela dit, l'expérience m'a appris à être prudent et que d'un mois sur l'autre, il est extrêmement difficile de deviner les chiffres. Et donc, j'espère que la tendance va se confirmer, mais il faut de toute façon l'apprécier sur plusieurs mois.
Oui, c'est ça. Mais c'est vrai qu'il peut y avoir une rechute. Et vous avez des capteurs quand même. Par exemple, les inscriptions, vous les voyez au jour le jour?
Au jour le jour.
Au jour le jour, les inscriptions à Pôle emploi, vous avez des indicateurs qui vous donnent une appréciation fine.
J'ai pas d'indicateur quotidien qui me permet de savoir si la conjoncture repart ou pas. On est plutôt sur les indices mensuels. Et c'est à l'occasion de la publication des chiffres qu'on regarde les autres éléments pour s'assurer de la cohérence. On n'est pas dans un suivi quotidien de l'augmentation des inscriptions, des créations d'emplois.
Bonne raison d'espérer, dites-vous. On est sur une bonne trajectoire. Un petit mot sur les chiffres, parce que c'est vrai que les chiffres mensuels, c'est vous qui les publiez, ils sont régulièrement contestés par des associations de chômeurs, par des élus. Est-ce qu'ils sont fiables?
Alors en général, ils sont contestés quand le chômage baisse. Quand le chômage hausse, personne ne remet en cause les chiffres. Ils sont naturellement fiables et ça a été vérifié par l'autorité de la statistique publique qui nous a labellisé et qui a donc dit clairement que nos chiffres étaient faits à l'état de l'art. Mais c'est des chiffres qui ont une source administrative et comme source administrative, ils peuvent être impactés par des phénomènes de gestion. Mais ça, c'est le cas de toutes les statistiques qui ont cette origine-là. Donc il n'y a aucun doute sur la fiabilité des chiffres de Pôle emploi.
Et pourquoi est-ce qu'il n'y a pas consensus? C'est parce que c'est un sujet extrêmement sensible.
Vous savez, je suis le premier à le regretter. Puisqu'on a un rapport du médiateur de Pôle emploi qui est une autorité indépendante qui dit qu'il n'y a pas une politique de radiation. On a l'autorité de la statistique qui nous a labellisé après 3 mois d'inspection par les inspections générales. On a un rapport sénatorial qui est sorti il y a 2 mois pour dire qu'il n'y avait pas de magouille sur les chiffres de Pôle emploi. Et malgré tout, on continue à avoir un doute.
Ouais.
Mais j'ai du mal à m'expliquer les raisons.
Pourquoi.
Parce qu'objectivement, imaginez bien que Pôle emploi a un objectif de sortir les chiffres les plus exacts. Il n'y a aucune intention de notre part de les trafiquer. Cela va de soi.
C'est dit, il y a un chiffre que vous venez nous révéler ce matin sur RTL, c'est le taux de satisfaction des utilisateurs de Pôle emploi. C'est un service public, c'est vrai, Pôle emploi, qui est rarement valorisé, qui n'a pas toujours eu bonne réputation, surtout après la fusion NPE-CEDIC. Vous faites une enquête annuelle que vous demandez à BVA. Alors de ce point de vue-là, est-ce que ça va mieux ?
Oui, ça va mieux. C'est très important pour nous ce chiffre, puisqu'on a un service public et des critères d'efficacité, c'est notamment la satisfaction des demandeurs d'emploi des entreprises. On sort aujourd'hui effectivement l'enquête BVA qui a été faite à grande échelle et qui montre qu'on a un taux de satisfaction global de 71%, ce qui est 5 points de plus que ce qu'on avait il y a 4 ans. Et surtout, ça nous permet de mesurer si les transformations récentes qu'on a mises en place ont été ou pas efficaces. Il y en a deux qui sont très importantes pour moi, le numérique. Et vous observerez dans cette étude qu'on a 87% des demandeurs d'emploi qui sont satisfaits de nos services numériques. Et puis, point très important, on a modifié les conditions d'accueil dans les agences. Et on est passé l'après-midi des accueils sur rendez-vous. Ça avait fait l'objet de débats et de polémiques. Aujourd'hui, on a le verdict. 85% des demandeurs d'emploi sont satisfaits.
Satisfaits d'avoir des rendez-vous individualisés
l'après-midi.
Alors au début, effectivement, ça a créé un choc parce que les agences sont fermées. Donc il y avait une
Elles ne sont pas fermées. J'essaie de me battre contre cette formule puisqu'elles sont ouvertes.
Faites-le.
Elles sont ouvertes, mais sur rendez-vous. Voilà. Ou atelier collectif. Quand vous allez chez le médecin l'après-midi, vous avez un rendez-vous, vous ne pensez pas qu'il est fermé.
Et 5 points de satisfaction en plus depuis 2012. Est-ce que, vous avez répondu en partie, mais est-ce que c'est là plutôt la partie indemnisation qui est vitale, évidemment, pour les demandeurs d'emploi, qui améliore aussi en
alors,
termes de satisfaction?
Alors, l'indemnisation, on a toujours eu depuis 5 ans de la bonne satisfaction. On a continué à l'améliorer. Moi, le point qui est le plus important à mes yeux, c'est les progrès qu'on fait sur l'accompagnement des demandeurs d'emploi, c'est-à-dire l'accueil, le numérique, le placement.
C'est vrai qu'on avait du retard.
On a progressé, on est loin encore de l'objectif que nous poursuivons. Il faut encore améliorer les choses, mais je trouve que c'est un très bon signal de reconnaissance pour les équipes qui sont très fortement mobilisées. On voit que les transformations qu'on met en place produisent du résultat. On l'a vu pour les entreprises aussi, on a publié il y a quelques mois, on a mis en place l'année dernière des conseillers qui sont dédiés à la relation entreprise, c'est-à-dire qu'ils sont à plein temps dans la relation avec l'entreprise. En l'espace de 6 mois, le taux de satisfaction est progressé de 5 points également.
C'est bien parce que souvent on dit que les conseillers ne connaissent pas assez l'entreprise.
C'est très important d'offrir
une image quand même qui leur
Oui, il y a beaucoup. Vous savez, le Pôle emploi fait l'objet de beaucoup d'images assez négatif, d'où l'intérêt d'objectiver tout ça. Et le taux de satisfaction, ça permet de l'objectiver. On est sur la bonne voie, on a encore beaucoup de travail à faire, mais c'est un bon signe de reconnaissance pour les équipes.
Quel est le meilleur outil pour trouver un emploi aujourd'hui, Jean Basset?
Alors, on a sorti justement hier une étude qui a été faite pour nous autour de l'Internet. Et on s'est rendu compte que ce que plébiscitent les demandeurs d'emploi comme outil pour retrouver un emploi, ça reste le réseau personnel et professionnel. Ça reste notamment le contact direct.
C'est-à-dire le relationnel.
Le relationnel.
Le bouche à oreille. Enfin, les contacts qu'on a soi-même.
Le bouche à oreille, le contact avec ta famille, avec les amis, c'est ça qui demeure le plus efficace. Ça ne veut pas dire que ce contact, il n'est pas d'autant plus efficace si en amont, vous avez préparé votre entretien, vous avez la bonne formation, vous connaissez le marché du travail. Mais in fine, et c'est plutôt rassurant, in fine, ça veut dire que l'emploi, ça reste une question de relation humaine. Il y a une personne qui recrute une autre personne.
C'est pas déshumanisé.
Non.
Alors qu'effectivement, on a l'impression que tout se passe sur Internet.
Alors,
aujourd'hui.
L'Internet est un progrès. Vous avez plus d'offres d'emploi qui sont transparentes. Nous-mêmes, vous savez que sur le site pôle-emploi.fr, qui reste le principal site de l'emploi en France, on a 600 000 offres d'emploi, mais il y en a 300 000 qui sont déposées chez d'autres sites. Donc, on arrive à agréger tout ça. On donne plus de visibilité. Mais in fine, arrêtons de penser que le marché du travail, c'est une main invisible qui automatiquement met en rapprochement une offre et une demande.
Quel conseil vous donner aujourd'hui les demandeurs d'emploi qui vous écoutent et qui sont un peu désespérés?
Le principal conseil, c'est de continuer à se battre, d'y croire. Leur situation est difficile. Être au chômage, c'est un exercice extrêmement difficile, traumatisant, avec des conséquences qui peuvent être extrêmement graves. Mais il faut continuer à se battre. Les conseillers de Pôle emploi sont là à leur côté.
Vous savez que c'est parfois douloureux à entendre, hein, quand on
J'en suis complètement conscient. Mais moi, je suis très souvent en agence, je rencontre des demandeurs d'emploi. Il y a beaucoup de demandeurs d'emploi qui, au bout de 2-3 ans, alors qu'ils sont désespérés, qui n'y croient pas, retrouvent un travail. Le principal message, c'est y croire jusqu'au bout.
Publié une enquête hier sur laquelle je voudrais vous nous donner votre avis. 23% des chômeurs ont renoncé à un emploi, une formation, faute de moyens de se déplacer. Surtout les jeunes, c'est assez impressionnant. Ils renoncent à un emploi, près de 1 sur 4. Qu'est-ce que vous répondez à ça? D'abord, est-ce que vous le confirmez? Et est-ce que la mobilité aujourd'hui est un frein à l'emploi?
Oui. La mobilité est un frein à l'emploi, et quand on parle de mobilité, on est même sur des petits rayons géographiques. C'est-à-dire des déplacements au-delà de 30 km, par exemple, peuvent être un vrai obstacle à l'emploi. Donc notre politique en la matière, c'est d'aider les personnes à pouvoir se déplacer. Donc on finance des frais de déplacement lorsqu'on va à un entretien, lorsqu'on va à une formation, on a des aides au permis de conduire. On essaie d'ailleurs de réfléchir à une nouvelle approche consistant à permettre, en liaison avec des associations, de faire des bilans mobilité, des entretiens individuels pour savoir, au vu de sa situation personnelle, quels sont les moyens de mobilité qu'on peut mobiliser. Mais c'est un vrai sujet de préoccupation.
C'est un vrai sujet. Est-ce qu'il y a une rupture territoriale, d'ailleurs?
Il y a une rupture territoriale.
Dans les zones rurales, c'est évidemment encore plus difficile que dans
les
zones urbaines.
Vous avez une double rupture territoriale. Il y a la répartition des emplois, et toutes les études montrent qu'on a plutôt une concentration des emplois sur des zones géographiques et plutôt les agglomérations, et une rupture sur les modes de transport qui fait qu'il est plus difficile de se déplacer. Donc double rupture, oui.
On peut demander une aide au permis de conduire à Pôle emploi. Xavier Bertrand avait lancé l'idée à l'automne dernier que la région Hauts-de-France prête des voitures carrément aux chômeurs pour aller à un rendez-vous ou même pour assurer un emploi. C'est une bonne idée, c'est un gadget?
Non, moi je pense que c'est une bonne idée. On va travailler d'ailleurs avec Xavier Bertrand. Moi je pense que toutes les idées en matière d'aide à la mobilité sont bonnes, qu'il y a une diversité de solutions. Ça peut aller auprès de la voiture, ça peut être le prêt de scooter, ça peut être des auto-écoles solidaires. Enfin, il y a des tas de possibilités, et souvent les demandeurs d'emploi ne connaissent pas toutes ces possibilités. Donc l'idée d'avoir un petit bilan individuel peut aider à une meilleure prise de conscience.
Alors vous disiez tout à l'heure que vous aviez beaucoup mis le paquet sur Internet. Vous avez passé des dizaines d'accords avec des sites. C'est pas le bon coin qui vous concurrence. Vous êtes aussi très performant. On avait parlé sur RTL avec Rémi Sulmont et Yves Calvi, on avait parlé ensemble d'une coopération aussi avec, il n'aime pas qu'on l'appelle comme ça, mais un petit génie de l'informatique, Paul Dvan. Il a 24 ans, il a travaillé dans la Silicon Valley. Il vous a proposé une plateforme de traitement de données numériques massives. Ça s'appelle Bob Emploi. Bob Emploi. Vous avez un retour? Est-ce que ça marche? Est-ce que c'est une solution? J'ose pas dire miracle, mais est-ce que ça marche?
Alors, ça ne sera pas une solution miracle. Il n'y a pas de solution miracle contre le chômage, mais ça fait quelques mois, on s'était lancé avant Noël. Il a à peu près 80 000 inscrits, à peu près 2 000 inscrits par jour, donc ça montre que ça intéresse les demandeurs d'emploi. Il faut attendre un peu pour savoir comment elle va être évaluée. D'ailleurs, on a une étude qui va être faite par un laboratoire économique pour évaluer l'efficacité concrète de cette application, ce qui est une première.
Précisément celle-là.
Oui, c'est les équipes du CREST qui vont nous faire une analyse dans quelques mois. Il faut attendre un peu parce qu'elle n'est pas encore sur mobile, cette application. Et vous savez qu'aujourd'hui, l'accès à l'Internet se fait majoritairement par mobile. Donc je pense que le jour, elle va basculer en mobile. Elle encore,
et ce sera le camp,
elle encore dans
camp
les prochaines semaines, m'a-t-il dit.
Ouais.
C'est lui qui est en première ligne sur ce sujet. Ouais. Lorsqu'on sera en mobile, je pense qu'on va avoir une audience plus forte. Et c'est très important puisque c'est des applications qui sont auto-apprenantes. C'est-à-dire que les demandeurs d'emploi vont donner eux-mêmes un jugement sur ce qui leur est proposé, ce qui va permettre d'améliorer la qualité des algorithmes.
C'est
donc, de ce point de vue-là, le volume est important.
C'est comme TripAdvisor. On va pouvoir soi-même améliorer le système. Ça, c'est une première aussi pour vous. Donc, pas de résultat pour l'instant. Vous dites
non, plutôt
y a des
bon
bonnes
signe.
Inscriptions.
Il y a un
bon
volume qui est significatif, mais il faut être prudent encore sur l'évaluation.
Alors, je sais que vous n'allez pas, si je vous soumets les idées dans cette période électorale des uns et des autres sur les réformes de Pôle emploi, vous n'allez pas me répondre. La privatisation, par exemple, ça va sans doute
fleurir. Ah si, sur Pôle emploi, je n'ai pas de difficulté à vous répondre.
Alors, privatisation de Pôle
emploi. Je trouve que c'est quelque chose qui n'est pas, de mon point de vue, compréhensible. Bruno Le Maire avait été porteur de ce projet dans le cadre de la primaire de la droite et je lui avais écrit pour lui dire à quel point je n'étais pas d'accord avec lui. Donc, je n'ai aucune difficulté à m'exprimer sur Pôle emploi. Oui. C'est l'idée qui repose sur des choses que je n'ai toujours pas comprises. Parce que toutes les évaluations nous disent que le privé n'est pas meilleur que le public en matière d'accompagnement des demandeurs d'emploi. Donc,
Il faut sortir de l'idéologie. Emmanuel Macron fait une proposition détonnante, permettre aux personnes qui démissionnent de toucher des allocations chômage. Il parle de principe, d'abord la rupture conventionnelle coûte très cher parce qu'il y a un peu d'abus. Et deuxièmement, il promet en contrepartie de contrôler beaucoup plus sévèrement la recherche d'emploi. Aujourd'hui, il y a combien d'inspecteurs ? Pour combien de chômeurs ?
Le contrôle de la recherche d'emploi, au sens s'assurer que les personnes font des actes répétés de recherche d'emploi, c'est quelque chose d'assez récent à Pôle emploi. On l'a installé il y a un peu plus d'un an. Et on a 200 conseillers qui sont spécialisés sur cette fonction.
Autant dure rien ?
Non, pas rien. Parce que vous savez, en matière de contrôle, le fait même que le contrôle existe a en soi un effet significatif. Mais après, effectivement, il y a une question politique de savoir s'il faut augmenter ou pas le nombre de ces contrôleurs.
Mais poser la question du contrôle, est-ce que ça renvoie à l'idée que les chômeurs sont des feignants ou est-ce qu'il faut quand même se donner les moyens, évidemment de...
Si nous n'avons mis en place ce contrôle, c'est justement pour essayer de combattre cette idée fausse et cette idée absurde selon laquelle les chômeurs seraient des feignants. Il faut connaître les chômeurs pour savoir qu'ils vivent une situation difficile. En revanche, pour crédibiliser cela, il faut avoir des instruments de contrôle, c'est ce qu'on a mis en place.
En un mot, il en faudrait combien d'inspecteurs pour être performant pour vous ?
Oh, il n'y a pas de chiffre absolu.
Merci beaucoup Jean-Bastien d'avoir été avec nous ce matin sur RTL.
Il n'y a aucun doute sur la fiabilité des chiffres de Pôle emploi et il n'y a aucun chiffre trafiqué à Pôle emploi, vient de nous dire notamment Jean Bassère, qui rappelle que le taux de satisfaction globale de Pôle emploi est en hausse de 5% depuis 2012. Et puis je vous rappelle, 600 000 offres d'emploi sur le site pôle-emploi.fr. Vous pouvez bien entendu retrouver cet entretien sur le site rtl.fr. Merci à tous les deux.
RTL Matin, 7h55.
À la une de notre journal de 8h, cette question, la dépénalisation du cannabis peut-elle ramener l'ordre dans les quartiers ? Nous serons à Marseille où 150 personnalités de la ville réclament aujourd'hui une légalisation. Et cela fera l'objet aussi de notre débat à 8h20. Nous attendons vos réactions au 3210.